Bonjour, soyez les bienvenus, c'est Eldorado. Soyez les bienvenus pour une heure d'errance, en terre rock, folk, etc. La voix de Mika P. Hinson semble parfois trop grave, trop lourde pour ses chansons, ténu vaisseau de papier que sa houle rudoie, bouscule, met en péril. La voix de Mika est plus vieille que lui et trop grande pour son corps frêle et nerveux, et de cet étrange décalage naît la beauté fracassante de ses chansons. Mika P. Hinson semble accueillir ainsi bien d'autres étranges mariages. Il est le descendant direct d'un chef de tribu indienne Choctaw et grandit dans une famille très chrétienne. Adolescent, il lit énormément, étudie ensuite l'histoire de la poésie anglaise, mais mène une vie dissolue où la drogue prend une place grandissante. C'est la musique qui sauvera son âme, et ses premières chansons qu'il compose à la guitare sont repentance, sont exorcisme. J'ai écrit sur les drogues, les femmes, le sexe et la destruction de l'âme humaine, confie Mika à l'hebdomadaire Time Out. En 2003, à l'aide du groupe texan The Earlies, qu'il rebaptise The Gospel of Progress, Mika P. Hinson enregistre son véritable premier album. Les chansons y sont fragiles, donc, et la voix lourde des accidents vécus en chemin. Les interprétations de Mika sont soutenues par les orchestrations splendides des musiciens qui l'accompagnent. Ceux-ci portent ses chansons, semblent les déplier pour en exposer le cœur ombreux aux bienfaits de la lumière. Mika est ébloui, nous aussi.
1, 2, 3, 2, 2, 3. Thank you.
Le chanteur texan Micah P. Hinson chante des ballades ténébreuses dans une ambiance de désolation mystique, soumet le critique Jérôme Provençal. Ici, la ballade portait le nom de Stand in My Way et est extraite du premier album du chanteur, Micah P. Hinson and the Gospel of Progress, paru en 2004 sur le label britannique Sketchbook. 10 années plus tard, c'est le label français Talitre qui réédite ce disque alors épuisé, tout en proposant à Micah P. Hinson de le remixer. Le résultat est magnifique, et si tant est que l'on écoute l'édition vinyle de l'album, la surprise n'en est que plus belle. Le chef-d'œuvre qu'est The Gospel of Progress s'offre de nouveaux reliefs, des terres, des sentiers enfouis, découvre de vifs ruisseaux. Le journaliste Stéphane Deschamps, toujours juste, toujours avec humour, évoque un grand disque de l'Amérique buissonnière et plein d'épines dans le buisson. 10 ans ont passé et déjà ce premier album de Micah P. Hinson fait référence. Pour exemple, le chanteur et guitariste français Baptiste W. Hamon. Son folk est parent de celui de Micah P. Hinson et de ce dernier, Hamon confie son admiration. Il n'y a rien qui me touche plus au monde que cette authenticité criante qui vient te lacérer le tréfonds de l'âme avec grâce. Des disques que j'aime écouter n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, 5 ou 10 fois de suite, je crois qu'il y en a 10, pas plus. Le premier disque de Micah en fait partie, et il a dû m'influencer d'une façon ou d'une autre dans mon processus d'écriture, car j'essaye d'insuffler dans mes chansons des bouts de vérité que je perçois dans ces disques qui m'ont tant marqué. À Michael Choisy du webzine Pop News qui demande à Baptiste W. Hamon s'il y a une chanson de Hinson qu'il aurait aimé écrire, celui-ci répond « Stand in my way, peut-être ». Il y a 4 phrases dans la chanson et pourtant c'est un imaginaire pas possible qui s'ouvre devant l'auditeur. Je suis toujours épaté par ces textes courts qui t'emmènent dans une contemplation sans limite. Je me souviens marcher dans les rues de Paris tôt le matin avec Stand in my way à blinde dans les oreilles. Tu sens tes larmes monter, tes colères, tes envies d'avancer, tes souvenirs heureux. Il n'y a pas de mots pour décrire la puissance des émotions que peut me procurer ce genre de chanson.
Hélas, perdu ma jeunesse dans les bals, dans les soirées, si quelque chose me reste, ce sont ces petits pieds. De diamants roses qui passent et qui me frôlent comme une hypnose. J'ai pris les seins de Diane, touché les jolies joues de Flore. Mais ce qui ranime ma flamme, ce sont les pieds de Terpsichore. Demain, j'irai chercher ma douce. Nouvel été, pas encore condamné, j'irai baiser les fleurs comme on baise son passé pour se relever. J'ai pris la bouche de Diane, serrée la peau rose de flore. Mais ce qui ranime ma flamme, ce sont les pieds de Terpsichore.
Baptiste Walker Hamon tente d'inscrire en son seul patronyme les grands espaces qui le traversent, ceux d'une chanson française littéraire, poétique, celle de Barbara et de Reggiani, et ceux de l'Amérique, de la country et du folk, de cette Amérique qui offre, pourra-t-il confier, l'odeur de la poussière et le sentiment de vérité. Patrice Demahy, pour Télérama, résume bien l'histoire. Avoir comme point d'attache familial Chinon et grandir dans le Sud n'empêche pas de fantasmer l'Americana. Cela peut même vous tracer un destin. Surtout quand on a visiblement eu plein d'amis pour rêver et s'évader. Des chansons. Qu'elles proviennent de Leonard Cohen, Hank Williams, Guy Clark ou de Woody Guthrie, toutes offraient échappatoire et saveur à la fin de l'adolescence de Baptiste. Mais il y a par-dessus le frisson du mentor absolu, en l'occurrence, Townes Van Zandt. Baptiste Hamon précise les choses. J'ai découvert le country folk à 17 ou 18 ans par l'intermédiaire d'un artiste qui allait complètement bouleverser mon rapport à la musique et au songwriting, Townes Van Zandt. Pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression, en écoutant ses chansons, de nager dans un océan de poésie, d'authenticité. J'avais des frissons dans mon corps qui venaient de je ne sais où. C'était complètement magique. C'est là que j'ai pris conscience de la dimension mystique qui pouvait se trouver dans notre rapport à la musique. Je ne comprenais pas nécessairement tout ce que Townes Van Zandt racontait, mais je pouvais sentir la poésie qui se dégageait de son phrasé, de la scansion de ses mots, des mélodies. C'est pour moi la vraie définition de l'universalité d'une chanson, l'authenticité de son auteur, qui ne cherche pas à tricher, à imiter, à convaincre, mais simplement à dire ce qu'il est et ce qu'est le monde, à travers des histoires sorties d'un imaginaire subtilement et puissamment poétique.
Now when you're sitting there in your silk upholstered chair, talking to some rich folks that you know, well, I hope you don't see me in my ragged company, but you know I could never be alone. So take me down, little Susan, take me down. I know you think you're the queen of the underground, and you can send me dead flowers every morning. You can send me dead flowers through the mail. You can send me dead flowers to my way.
forget to put roses on your grave. Kentucky Derby days. Well, I'll be in my basement room with a needle and a spoon and another girl to take my pain away. Well, take me down, little Susan. Take me down. Oh, I know you think you're the queen. Send me dead flowers every morning. You can send me dead flowers through the mail. You can send me dead flowers to my wedding. And I won't forget to put roses on your grave. No, I won't forget to put roses on your grave.
À la fin des années 60, mais au début des années 70, Toons Van Zandt est à son pic de créativité et aligne les albums magistraux. Plus tard, au mi-temps des années 70, les démons avec lesquels il livre une lutte acharnée semblent prendre le dessus et l'alcool, la drogue et la dépression entachent la brillance des chansons du Texan, parviennent à freiner leur vive course. Toons chantera de moins en moins, mais chacune de ses apparitions demeurera jusqu'au bout poignante et unique. Jusqu'en 1997, où l'étoile de Toons Van Zandt s'éteint, il a 52 ans. Mais revenons à ces années fin 60, début 70, où le ciel de Toons brille. Entre 68 et 73, il livre 7 albums gorgés de chansons fantastiques, dont certaines deviennent des classiques country folk. En 2013, paraît un recueil de chansons de cette même époque, qui n'avait jamais été publié, et augmente ainsi un legs qui n'en avait pas besoin. Chansons non retenues pour les albums et versions démo se serrent dans ce double album indispensable aux amoureux de la musique de Toons qu'est Sunshine Boy. Ici, on entendait la version que le chanteur offrait de Dead Flowers, originellement composée et interprétée par les Rolling Stones. Toons la reprend sitôt celle-ci parue, c'est-à-dire en 1971. Dead Flowers apparu sur le disque Sticky Fingers, un des albums les plus célèbres de The Rolling Stones, et au croisement de plusieurs esthétiques. Tout d'abord, les rocks musclés bâtis sur un riff efficace qui seront à partir de là leur marque de fabrique, tel Brown Sugar. Ensuite, les ballades, telles Sister Morphine, Wild Horses, dont Jagger et Richards ont le secret. Puis le blues, bien sûr, avec par exemple la reprise de You Gotta Move, et enfin l'héritage country. À la fin des années 60, Keith Richards se lie avec Graham Parsons du groupe country rock Flying Burrito Brothers. Et ce dernier fait découvrir à Keith, féru de la tradition noire du blues, la tradition blanche du bluegrass et de la country. Dead Flowers découle directement de cette tradition country. L'album Sticky Fingers se clôt avec le titre Moonlight Mile, qui fut écrite et enregistrée en une nuit par Mick Jagger et le guitariste Mick Taylor, qui avait remplacé Brian Jones en 1969. Cette nuit d'octobre 70, dans le manoir anglais de Star Groves, où résidait alors Jagger, les deux hommes travaillent à partir d'un enregistrement laissé par Keith Richards, un simple lambeau de mélodie que ce dernier, absent, avait consigné sur bande et intitulé « Japanese Sing ». Jagger prend la guitare acoustique, Taylor l'électrique. À l'aube, Moonlight Mile était né. C'est Andy Warhol qui conçut la célèbre pochette du disque Sticky Fingers des Rolling Stones en 1971. Cette célèbre pochette, illustrée d'une entrejambe masculine, vêtue de jeans, ornée d'une véritable fermeture éclair, qui descendue dévoile les sous-vêtements de coton du modèle. Les fans crurent longtemps que ce modèle, c'était Mick Jagger en personne. Mais en fait, derrière le jean célèbre, se dissimulait Joe D'Alessandro, mannequin et acteur proche de Warhol et fidèle de la Factory. L'année suivante, en 1972, Lou Reed fait paraître son disque Transformer. Lou fut bien sûr l'âme du Velvet Underground, le groupe de la Factory que Warhol aura contribué à faire naître et dont il signera la pochette du premier disque, le fameux album à la banane, The Velvet Underground, un Nico. 6 ans plus tard, nous sommes en 72, et sort donc dans les bacs le disque solo de Lou, Transformer. La chanson la plus connue du disque, et qui sera le seul véritable succès public de Lou Reed, est Walk on the Wild Side. Le chanteur y évoque toutes ces figures mythiques et typiques qu'il rencontre dans les années 60 à la Factory et les décrit sans embâge et non sans humour à travers le prisme de leur sexualité et de leur marginalité. Malgré la description de la transsexualité, de la prostitution, de la fellation, de la drogue, le titre passera sur toutes les radios américaines. Hollywood Lawn, Candy Darling, Jackie Curtis et Joe D'Alessandro, bien sûr, Lou l'évoque sous le patronyme affectueux de Little Joe, sont chantés par Lou dans ce titre magnifique, aux airs faussement inoffensifs. Lou Reed, à cette époque, au début des années 70, est au creux de la vague. C'est David Bowie, admirateur de toujours et devenu son ami, qui va l'inviter à Londres et organiser l'enregistrement de Transformer. Bowie produit le disque et pour le coup invite des musiciens qui lui sont proches. Le solo de saxophone baryton est joué par Ronnie Ross, qui avait appris le sax au jeune Bowie. Quant à la ligne de basse, elle fut imaginée et jouée par Herbie Flowers, un collaborateur du Bowie pré-Ziggy. Enfin, les arrangements sont signés Mick Ronson, le guitariste des Spiders from Mars, le groupe de David Bowie alors. Tout ce monde est réuni autour de Lou, et le miracle peut opérer.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doot 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 doot. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot 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 doot.
Knowing it's right, knowing it's right. tomorrow's double feature. Heaven is on the pillow. Its silence competes with hell. It's a 24-hour service, guaranteed to make you tell. And the streets are full of press men, bent on getting hung and buried. And the legendary curtains are drawn round, baby, bankrupt. Who sucks you while you're sleeping? It's the theater of financiers. Count them, 15 round the table, white, dressed to kill. Oh, caress yourself, my juicy, for my hands are all but withered. Oh, dress yourself, my urchin one, for I hear them on the stairs because of all we've seen, because of all we've said.
David Bowie, chant, guitare et saxophone, Mike Garson, clavier, Herbie Flowers, basse, Ainsley Dunbar, batterie. En 1974, Bowie s'entoure de musiciens d'exception, pour la plupart des proches, afin d'enregistrer le disque Diamond Dogs. L'album est sombre, laissant transparaître les angoisses d'un Bowie drogué à travers la description d'un futur apocalyptique à mi-chemin entre la dictature aliénante narrée par George Orwell dans 1984 et une science-fiction, un monde dystopique peuplé de prédateurs monstrueux. Sur la pochette du disque, Bowie apparaît représenté mi-homme, mi-chien. L'artiste belge Guy Pellaert, qui est l'auteur de cette pochette effrayante, dessine la même année la pochette du disque It's Only Rock and Roll, The Rolling Stones. Diamond Dogs est produit par Bowie lui-même, et il convoque donc des hommes de confiance pour l'épauler, qui seront à même d'incarner ses visions paranoïaques et dépressives d'un monde dominé par la superficialité et la soumission, la cruauté et l'artifice, à l'instar du grand cirque rock'n'roll. Le pianiste Mike Garson l'avait déjà accompagné sur ses disques précédents, Pin-Ups et Aladdin Sane. Le bassiste Herbie Flowers était à ses côtés à l'époque de Space Oddity. Quant au batteur Ainsley Dunbar, familier de l'univers de Frank Zappa, il a déjà enregistré aux côtés de Bowie pour son album Pin-Ups l'année qui précède Diamond Dogs en 1973. Cette même année, 1973, Ainsley Dunbar entre en studio pour la suite que Lou Reed souhaite donner à son disque Transformer. L'album s'intitule Berlin et demeurera certainement comme le plus beau et soit dit au passage le plus déprimé des disques de Lou Reed. Extrait Men of Good Fortune.
Men of Good Fortune often cause empires to fall, while men of poor beginnings often can't do anything at all. The rich son waits for his father to die. The poor just drink and cry. And me, I just don't care at all. Men of good fortune very often can't do a thing, while men of poor beginnings often can do anything. At heart they try to act like a man. Handle things the best way they can. They have no rich daddy to fall back on. Often cause empires to fall, while men of poor beginnings often can't do anything at all. It takes money to make money, they say. Look at the Fords, but didn't they start that way? Anyway, makes no difference to me. Men of good fortune often wish they could die, while men of poor beginnings want what they have, and to get it they'll die. All those great things that life has to give, they want to have money. Don't care at all. Men of good fortune, men of poor beginnings, men of good fortune.
Cet album sinistre, musicalement médiocre, est une offense. Il faudrait pouvoir se venger d'un tel disque, s'en prendre même physiquement à son auteur, écrivit dans Rolling Stone le critique Robert Christgau à la sortie du disque Berlin de Lou Reed en 1973, scellant ainsi son destin de disque maudit. Mais des années plus tard, le disque sera réhabilité et considéré comme ce qu'il est, un chef-d'œuvre. Tout l'album s'articule autour de l'histoire de deux amants, Jim et Caroline, et de la dégradation de leur histoire amoureuse. J'ai toujours pensé qu'il fallait considérer les disques comme des romans ou des films, c'est-à-dire comme des œuvres cohérentes, faites pour être écoutées dans un ordre précis. Pas juste un recueil de chansons plus ou moins entraînantes ou jolies, annonce Lou Reed. Berlin obéira donc à cette conception ambitieuse du rock, dont Lou Reed aura définitivement concouru à faire entrer dans l'âge adulte. Ce qu'on entend sur Berlin, la lente et terrifiante glaciation des relations humaines, l'atomisation de tout espoir, de tout optimisme, put écrire Jean-Daniel Beauvallet. Le songwriting de Lou Reed est à son sommet, magnifié par la production du jeune Bob Ezrin, qui a convoqué en studio la crème des musiciens anglais de l'époque, l'enregistrement se déroulant dans un studio de Londres. Ainsley Dunbar à la batterie, donc. Ainsi que, pour n'en citer que deux autres, Steve Winwood du Spencer Davis Group et de Traffic à l'orgue et l'harmonium, et Jack Bruce du groupe Cream à la basse.
I'll soon be with you, my love. Give you my dull surprise.
I'll be with you, darling, soon. I'll be with you when the stars start falling.
I've been waiting so long. Sunshine of your love.
I'm with you, my love. The light shining through on you.
Yes, I'm with you, my love. It's the morning, just we two.
I'll stay with you, darling.
Cream fut en son temps l'équivalent anglais du Jimi Hendrix Experience, à savoir un trio, réunion de trois musiciens d'exception visitant la matrice du blues pour la dynamiter, puis en plonger les restes dans un bain lysergique et psychédélique. Cream fut avec l'Experience le précurseur de la formule à laquelle on prêtera plus tard le nom de Power Trio. Une batterie, une basse et une guitare assurant seuls accords et solos. Cream fut aussi l'un des premiers représentants de ce qu'on put appeler les supergroupes, à savoir la réunion de musiciens qui ont auparavant brillé dans d'autres groupes célèbres. Cream était composé du guitariste Eric Clapton, qui avait fait ses précédentes armes dans les Yardbirds, du batteur Ginger Baker, qui avait auparavant œuvré au sein de Blues Incorporated, et du bassiste et leader de cette formation, Jack Bruce. Quand Cream se sépare après 3 albums et autant d'années actives, soit de 1966 à 1968, Clapton et Baker partent fonder un autre supergroupe avec le bassiste de Family, Rick Grage, et l'organiste du Spencer Davis Group et de Traffic, Steve Winwood. Les quatre musiciens fondent Blind Faith, groupe éphémère, auteur d'un unique album studio éponyme dont l'extrait « Can't Find My Way Home »« Je ne parviens pas à retrouver le chemin de la maison » servira de paradoxal terme à cette errance en terre rock. Folk, etc. fera office de point final à cette émission d'Eldorado. Merci d'avoir été à l'écoute et merci peut-être de votre fidélité. N'oubliez pas, sur le site de l'émission www.radio-eldorado.fr, tous les épisodes d'Eldorado sont disponibles à l'écoute et au téléchargement. Disponibles également les références exactes de la poignée de morceaux écoutés ensemble lors de chaque émission. Blind Faith, donc. Portez-vous bien. À bientôt, j'espère. Ciao. Come down.